Europe 1 Soir Weekend.
Pierre de Villeneuve.
Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être fidèles à votre rendez-vous du dimanche soir. Deux heures d'infos, de décryptage et de débat. 18h sur Europe 1. Et au sommaire, Elisabeth Borne convoquée en urgence à l'Élysée demain. Un tête-à-tête avec Emmanuel Macron à midi, poursuivi par une réunion élargie au cadre de la majorité. Que signifie cette réunion qui se trouve prise en étau entre les violences de Sainte-Soline et la nouvelle grande journée de mobilisation mardi? Décryptage dès le début de ce journal et nous y reviendrons dans Ça fait débat à 18h30. Demain lundi, où se tiendra le 53e congrès de la CGT, deux femmes se disputent la succession de Philippe Martinez. Marie Buisson et Céline Verzelletti, portrait croisé de ces deux favorites au profil bien différent. Dans ce journal également, que prépare Vladimir Poutine pour la suite? Que signifie ce déploiement d'armes nucléaires tactiques au Bélarus? Une rhétorique dangereuse et irresponsable, dit l'OTAN. L'ancien commandant suprême du traité de l'Atlantique Nord nous dira dans ce journal que oui, c'est une nouvelle escalade dans la guerre. Vous avez du mal ou même la phobie du digital? Les smartphones, les applis, les procédures sur Internet vous donnent des migraines? Le Digitruck se balade partout en France, est en ce moment dans le Grand Est pour vous venir en aide. Et puis, il s'appelle non pas Trinita, mais Maignan, Mike Maignan. Il est la relève d'Hugo Loris et c'est lui qui défendra les cages tricolores contre l'Irlande demain soir. Le temps, Valérie Darmon.
Eh bien, retour d'un temps plus calme partout avec encore du vent cette nuit sur le Sud-Est et la Corse et de belles éclaircies sur les trois quarts de la France demain après-midi.
Temps complet à 18h13, 18h15. L'ancien ministre britannique travailliste Denis McShane et lui, quel est son regard politique sur le report de la venue du roi Charles III en France? 19h15, direction le zooparc de Beauval. Des nouveautés pour les petits et pour les grands. La directrice générale de Beauval, Delphine Delors, nous en parlera. Il n'y a pas que les pandas. 19h30, panorama. Nixon in China débarque à l'Opéra de Paris. Cette partition de John Adams est un CNN opéra, comme on dit. Autrement dit, une œuvre basée sur l'actualité. Et alors que la Chine, justement, est dans toutes les conversations en ce moment, souvenons-nous de cette visite de Richard Nixon en 1972 pour rencontrer Mao Tse-tung, visite qui a conduit à un réchauffement des relations entre les deux pays sous l'égide d'un certain Henry Kissinger, le musicologue Yvan Alexandre, le violoniste David Grimal et l'ancien ambassadeur aux États-Unis Gérard Haro seront là pour en parler. Une nouvelle semaine commence pour l'exécutif, une semaine qui ressemble bien aux précédentes. Toujours dans l'attente de la validation par le Conseil constitutionnel, le texte sur la réforme sur les retraites va connaître une nouvelle journée de contestation mardi. Et ce week-end, les ministres étaient sur le pont avec les violences à Sainte-Soline. On va y revenir. Le rendez-vous très attendu, c'est demain midi à l'Élysée. Elisabeth Borne, attendue par le président de la République pour un entretien en tête-à-tête suivi d'une réunion agrandie au reste des cadres de la Macronie. Que signifie ce rendez-vous, Arthur Delaborde?
Eh bien, c'est une sorte de cellule de crise qui va se tenir demain à l'Élysée. Si le déjeuner prévu entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne est assez classique, puisqu'il y en a un tous les lundis, beaucoup moins fréquent, les deux têtes de l'exécutif seront ensuite rejoints à 13h15 par les principaux chefs de la majorité. Stéphane Séjourné pour Renaissance, François Bayrou pour le Modem et Édouard Philippe pour Horizon. À la veille de la 10e journée d'action contre la réforme des retraites, le contexte social plus que tendu sera évidemment au cœur des discussions. Les violences de plus en plus intenses dans la rue, mais aussi les menaces qui se multiplient contre les parlementaires. Comment continuer à réformer sans majorité? C'est l'autre question qui devrait être sur la table. Emmanuel Macron vient de charger Elisabeth Borne d'élargir la majorité, mission quasi impossible à ce stade. L'exécutif réfléchit aussi à une autre manière de gouverner, moins de lois et plus de décrets, ce qui permettrait de se passer dans la mesure du possible de vote au Parlement.
Merci Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1 et le porte-parole du gouvernement Olivier Véran précise ce matin qu'il n'y aura pas de retraite dans les réformes. Autre rendez-vous important demain, le 53e congrès de la CGT. Important car la deuxième centrale syndicale du pays va changer de visage. Le tenace Philippe Martinez passe la main, sans doute à une femme. En effet, s'il y a bien plusieurs candidats pour lui succéder, eh bien ce sont bien deux femmes qui sont favorites, Alexandra Gégy.
Oui, d'un côté, la candidate portée et défendue par Philippe Martinez, Marie Buisson, professeure de 55 ans, à la tête de la Fédération de l'Enseignement gouvernement, de la culture et de la recherche. Alors au sein de la CGT, certains lui reprochent sa discrétion, mais aussi le fait qu'elle n'ait jamais porté de lutte emblématique. Mais c'est surtout à partir de 2020 qu'elle s'attire les foudres d'une partie de la CGT pour son engagement dans le collectif Plus Jamais Ça. Elle milite alors pour une sortie du nucléaire et ce n'est pas la ligne de la Confédération. Pour rappel, jamais un enseignant n'a été élu à la tête de la CGT.
Ouais, d'autant plus qu'elle devra affronter donc Céline Verzelletti si elle veut prendre la relève, une candidate particulièrement proche des fédérations.
Oui, deux profils presque opposés. Céline Verzelletti incarne la CGT classique. Elle a été surveillante de prison au Beaumet à Marseille et à la Santé à Paris. Elle est soutenue par la Fédération de la Santé, par les services publics, les cheminots ou encore les fonctionnaires d'État. Contrairement à Marie Buisson dans l'ombre du chef, Céline Verzelletti, grande habituée des médias, perpétue les traditions de la CGT et défend par exemple les blocages contre la réforme des retraites. Alors la direction de la CGT devrait proposer une candidature, celle de Marie Buisson, jeudi soir, mais encore faut-il que le Parlement de la Confédération valide à son tour cette proposition. Réponse vendredi prochain.
Merci de ces précisions Alexandra. Gégis, les prévisions de trafic d'ailleurs se précisent déjà à la RATP. Trafic perturbé dans le métro parisien, très perturbé sur le RER. Pas de prévision pour l'instant à la SNCF, mais il y a de fortes chances que les trains seront perturbés là aussi. Dans les aéroports, la Direction Générale de l'Aviation Civile a d'ores et déjà demandé aux compagnies d'annuler 20% de leurs vols à Paris-Orly, Marseille, Toulouse et Bordeaux pour les journées de mardi et mercredi. Pour les cortèges, celui de Paris partira à 14h de la place de la République jusqu'à Nation. Hier, ce sont des scènes d'une rare violence qu'on a vues à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres. Le bilan humain est effrayant. Un manifestant très grièvement touché. Le pronostic vital de cet homme de 30 ans est engagé. Il est victime d'un traumatisme crânien. Deux autres manifestants sont toujours dans un état d'urgence absolue. Côté forces de l'ordre, 29 gendarmes ont été blessés, dont deux placé en urgence absolue. Et alors que la polémique tourne autour des braves M et que même la commissaire aux droits humains du Conseil de l'Europe s'alarme de l'usage excessif de la force envers les manifestants, Éric Zemmour, le patron de Reconquête, estime qu'il n'y a pas de violence policière, elles ne sont que légitimes.
Il n'y a pas de violence policière. L'État a le monopole de la violence légitime. Il peut y avoir des exactions personnelles qui doivent être évidemment sanctionnées, mais le terme est inadéquat. Il n'y a pas de violence policière. Ça fait des années désormais que à chaque manifestation, au début pacifique, vous l'avez très justement dit, et puis petit à petit, les casseurs, les black blocs, les antifas commencent à pourrir tout et à casser et à attaquer les flics et à risquer de tuer. Je suis étonné, moi, de l'impunité non seulement judiciaire, mais médiatique, politique, dont ils bénéficient. Moi, je pense qu'effectivement, ce sont, oui, on peut dire factieux, on peut dire nervis, on peut dire canailles. Ils n'ont rien à faire dans un pays démocratique. Il faut absolument les réprimer, mais sévèrement.
Éric Zemmour au grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos demain dans la matinale à 8h13. C'est le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau qui répondra aux questions de Sonia Mabrouk et qui reviendra donc sur ces violences à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Il est 18h07. Peut-on parler d'une nouvelle escalade dans le conflit russo-ukrainien? Hier, Vladimir Poutine menaçait d'utiliser des obus à uranium appauvri si l'Ukraine en recevait de la part des Occidentaux. Le chef du Kremlin annonçait aussi déployer des armes nucléaires tactiques en Biélorussie, ce qui a immédiatement inquiété l'OTAN, mais aussi l'Ukraine, qui demande instamment une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Comment analyser cette nouvelle action de Vladimir Poutine? Élément de réponse avec le général Jean-Paul Paloméros, ancien commandant suprême de l'OTAN.
Quand on parle d'armes nucléaires tactiques, c'est que la puissance est réduite. On est malgré tout aux alentours de la puissance de la bombe d'Hiroshima. Ça veut dire que c'est des armes qui pourraient être employées sur un théâtre d'opération. Elles sont déployées dans des dépôts et puis ensuite elles peuvent être utilisées alors soit à partir d'avions ou alors avec des missiles, les fameux missiles Iskander, et qui menacent d'ores et déjà les pays européens. Donc on peut imaginer, ça fait partie de la doctrine russe, qu'elles soient utilisées à un moment ou à un autre d'une guerre, par exemple pour stopper l'avancée d'un adversaire. En les déployant en Biélorussie, il est clair que M. Poutine veut marquer son territoire. Il marque bien le fait que la Biélorussie fait partie de son environnement, fait partie d'une grande Russie en quelque sorte. C'est une petite étape dans l'escalade.
Voilà, des bombes de la puissance d'Hiroshima, dit le général Jean-Paul Paloméros, ancien commandant suprême de l'OTAN, interrogé par Thibaut Hu. Tout autre chose maintenant, près d'un Français sur six est touché par ce qu'on appelle l'illectronisme. L'électronisme, qu'est-ce que c'est? C'est la difficulté, voire l'incapacité totale à utiliser des outils informatiques. Ça concerne surtout les personnes âgées, celles qui vivent aussi dans des petites communes rurales. En 2023, ça reste très handicapant au quotidien. C'est pour aider ces Français que Huawei, l'un des leaders de la téléphonie mobile, a créé il y a un an et demi le DigiTruck. C'est un camion itinérant qui parcourt les routes de notre pays pour apprendre à ceux qui le souhaitent à utiliser un ordinateur. Il se trouve en ce moment à Mulhouse et la correspondante d'Europe 1 dans le Grand Est, Mélina Fachin, l'a suivi. Reportage.
Saisis vos informations.
Alors,
voilà.
C'est quoi le petit problème ? Dans ce grand camion bleu, installé sur un parking du centre-ville, quatre dames, âgées de 65 à 83 ans, ont pris place devant des ordinateurs portables. La mission de Marie-Thérèse cet après-midi.
J'essaie de me connecter à Doctolib. J'aimerais pouvoir faire toutes mes démarches en ligne, puisque maintenant c'est l'ordinateur qui est. Hein. Si on ne sait pas se servir, on est largué. Hein. Je suis obligée de m'y mettre. J'ai trouvé que l'initiative était formidable. En plus, c'est gratuit. Et puis, je pense que je vais apprendre beaucoup de choses.
Diana Patetif, animatrice dans le DigiTruck, organise tous les jours, sauf le dimanche, des ateliers sur différents thèmes.
Comment utiliser une souris, comment utiliser un clavier, la base, jusqu'à comment utiliser France Connect, tout ce qui est arnaque.
Le DigiTruck restera à Mulhouse encore une semaine, puis direction Remiremont, Épernay ou encore Verdun, aux quatre coins du Grand Est, jusqu'à cet été, avant de filer vers une autre région. Mulhouse, Mélina Fachin, Europe 1.
Football à présent, l'équipe de France est envolée ce matin pour Dublin. Les Bleus joueront demain soir leur deuxième match qualificatif pour l'Euro 2024 à l'Aviva Stadium, dans la capitale irlandaise. Des Français libérés après leur très net succès 4-0 vendredi soir au Stade de France contre les Pays-Bas, avec un nouveau capitaine, Kylian Mbappé, inspiré, décisif, et un nouveau gardien titulaire, déjà héroïque, le Milanais Mike Maignan. Le gardien des Bleus s'est illustré de la plus belle des manières, Cyril de la Morinerie.
Oui, tous les joueurs sont venus l'enlacer pour le féliciter. Mike Maignan a repoussé dans le temps additionnel un pénalty de la star néerlandaise Memphis Depay, sous le regard de son prédécesseur Hugo Lloris en tribune et de ses coéquipiers, notamment Aurélien Tchouaméni, nullement surpris par son arrêt réflexe.
Honnêtement, ouais, on était sur le banc, on s'est dit que voilà, c'était son moment. On sait qu'il est performant dans cet exercice-là et il nous l'a montré encore aujourd'hui.
Et pour sa sixième sélection, le gardien de 27 ans a en effet confirmé sa réputation. C'est le 12e pénalty arrêté dans sa carrière. Des débuts parfaits comme titulaire en bleu, confirme le sélectionneur Didier Deschamps à Jean-François Pérez.
C'est pas évident pour lui quand même de remplacer Hugo avec tout ce qu'il a pu faire et très bien faire. Mais Mike a vraiment tout pour prendre le relais.
Le gardien formé au PSG, révélé à Lille et désormais au Milan AC, est parti pour s'installer dans la durée, dans les buts français.
Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1 en cyclisme. Le français Christophe Laporte remporte le classique Gent-Wevelgem devant son leader chez Jumbo-Visma, le belge Wout van Aert. En MotoGP, sans surprise, c'est l'italien Francesco Bagnaia qui remporte le Grand Prix du Portugal sur Ducati. Le champion du monde en titre porte ainsi la première manche de la saison devant l'espagnol Maverick Vinales sur Aprilia. Et l'italien Marco Bezzecchi sur l'autre Ducati. La quatrième position revient quand même à un Français, Johan Zarco, grâce à une excellente remontée. Et puis Fabio Quartararo, lui, sur Yamaha, termine huitième. Le ciel maintenant, Valérie Darmon. Belle amélioration demain sur l'ensemble du pays.
Effectivement, alors déjà sur le pourtour méditerranéen, le temps est au beau fixe, même si Tramontane et Mistral continuent de souffler en rafale à 80 km/h. Même chose en Corse avec des rafales à 110, notamment dans la région de Bastia, sur le relief et sur les extrémités de l'île. Sur le reste de l'Hexagone, le ciel est encore chargé et pluvieux, notamment près des Pyrénées et du Massif central. La neige tombe sur les Alpes du Nord à partir de 900 à 1000 mètres. Ailleurs, un ciel plus lumineux se généralise, alternant entre soleil et passages nuageux. Les maximales vont afficher 7 à 9 degrés près des frontières de l'Est, ainsi qu'en Auvergne, 9 à 14 partout ailleurs, jusqu'à 19 du sud de la Garonne aux régions méditerranéennes.
Merci Valérie Darmon. 18h13, dans un instant, le regard acéré de l'ancien ministre britannique Dennis McShane. Que pense-t-il, lui, du report du voyage de Charles III en France ? A tout de suite.